100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Tous les jours, on se lève pour nourrir la population française. On nous remercie par des débats qui n'ont pas lieu d'être. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse dire que la population française soit en mauvaise santé à cause de ces agriculteurs.
Bonjour à tous. La contestation sociale, elle ne concerne pas seulement les Français inquiets pour leur retraite ou les exclus de la croissance. Il faut compter aussi avec le malaise paysan. En France, mais aussi en Allemagne et aux Pays-Bas, ils manifestaient ces dernières semaines, bousculés par les injonctions à produire mieux, sans pesticides, moins cher quand les cours sont volatiles, soumis aux aléas d'un marché mondial. En France, 22% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté. Pour les plus jeunes, il est difficile de s'installer. Endettement, solitude, recours aux revenus de solidarité active. La jeune génération a du mal à se lancer dans ce métier. Alexis Bédu.
48 000 exploitations agricoles ont disparu entre 2011 et 2016, et ce n'est pas dû au hasard. Beaucoup d'énergie déployée pour des revenus trop faibles. Selon une étude de l'INSEE publiée le mois dernier, environ 20% des agriculteurs n'auraient eu aucun revenu en 2017. Lors du dernier salon de l'agriculture en février, Ludovic Calvé et Jean-Raymond Nouret, deux jeunes éleveurs des Pyrénées dans le sud-ouest du pays, expliquaient leur mal-être.
On va se retrouver comme les Indiens en réserve.
Pourquoi nous enfermer dans un jour? Bientôt. Vu l'agriculture comme elle marche cette année-ci, on ne va plus pouvoir en vivre longtemps. Déjà, on n'en vit plus. Là, on survit et ça va devenir catastrophique.
Moi, je suis fils de l'éleveur laitier. Je voulais m'installer, mais c'est très compliqué, très compliqué. On se retrouve lancé là-dedans. On nous demande de choisir ce qu'on veut faire sur 5 ans, les investissements pour l'installation. Et des fois, je me dis, il vaudrait mieux attaquer autre chose à côté. Ça serait plus simple, quoi.
Et s'ils n'abandonnent pas le métier, les jeunes agriculteurs sont souvent contraints de se diversifier, de multiplier les revenus. Par exemple, en Bourgogne, Arnaud Guénaud, 29 ans, est éleveur de poulets bio. En plus de s'occuper de ses 8000 volailles, il travaille à mi-temps dans une exploitation voisine. Ce phénomène n'est pas chiffré, mais il est bien réel, confirme Aurélien Clavel, vice-président du syndicat Jeunes Agriculteurs.
Quand on lance son activité, que ce soit une reprise, il y a les coûts de reprise qui sont importants, ou quand on la lance, qu'on la démarre, il faut toujours le temps que les productions rentrent en marche. Donc il y a plus ou moins de précarité selon les filières et puis selon la conjoncture qu'il y a, mais c'est toujours plus difficile que ceux qui sont installés. Je n'ai pas de chiffres, mais il y en a quand même beaucoup qui sont salariés avant de s'installer, et donc les quelques heures de mi-temps ou quelques heures de travail à côté, c'est parfois chez d'autres exploitations agricoles.
Aurélien Clavel est lui-même producteur laitier depuis une dizaine d'années en Isère, dans l'est du pays. Pour pérenniser l'exploitation, il a dû diversifier sa production. Désormais, la ferme fait de la bière et produit des noix en agriculture biologique ainsi que des semences fourragères. C'est une exploitation familiale reprise à son père et ses débuts n'en ont pas été plus simples.
Moi, ça a été aussi compliqué parce que mon père avait une exploitation, mais je me suis installé avec lui, donc c'est comme si on crée une exploitation dans l'exploitation avec beaucoup d'investissements. Pour arriver même en vitesse de croisière, c'est-à-dire une exploitation qui tourne, il a fallu quasiment 6-7 ans pour tirer un revenu, donc il y avait toujours le minimum, mais un revenu correct, il a bien fallu attendre 4-5 ans quand même.
Ce que vous appelez un revenu correct, c'est quoi ?
Je parle d'un SMIC. Par rapport au temps, c'est pas forcément correct, mais on va dire le minimum vital, quoi.
En France comme en Belgique, il existe une dotation pour les agriculteurs en début d'installation. C'est une aide à la trésorerie qui va de 12 à 40 000 euros, mais ça ne suffit pas toujours. Les salaires restent très inégaux selon les filières. En moyenne, on gagne deux fois moins quand on est éleveur laitier que quand on est producteur de porc.
Et en Pologne, le secteur agricole affiche une croissance presque indécente en Europe et il emploie encore 13% de la population active contre 4% en France. Mais derrière les chiffres se cachent d'immenses disparités. Les grosses fermes intensives héritières du communisme et les petites exploitations de moins de 10 hectares, seuls 15% des fermes sont rentables dans le pays et on peut facilement imaginer lesquelles. Thomas Giraudot est allé à la rencontre de deux jeunes agricultrices qui joignent les deux bouts grâce à l'agrotourisme.
Au milieu de sa trentaine de chèvres, Monika Jourawska est dans son élément. Mais cela ne fait que 8 ans que cette néo-rurale a acheté avec son mari ce qui était une maison secondaire, entourée de champs et de quelques vieilles granges. Monika se met alors à cultiver du tournesol, de la camomille et achète sa première chèvre.
J'ai appris à traire les chèvres en regardant une vidéo sur YouTube. La première fois, ça m'a pris 1 heure et demie. Il y a 5 ans, j'ai vu une publicité pour un atelier de production de fromage. À l'issue d'une formation de 2 jours, on a décidé de devenir producteur. Jusqu'à l'année dernière, je faisais la traite toute seule. Maintenant, on a investi dans une trayeuse.
Monika est en train de transformer l'intérieur d'une des vieilles granges pour en faire son atelier de production de fromage, celui dans lequel elle fera aussi découvrir son métier aux visiteurs.
Actuellement, on fabrique le fromage chez nous, dans notre cuisine. On fait de petites quantités et ce n'est pas confortable. Là, dans ce bâtiment, nous aurons une cave d'affinage, nous aurons des moules, des tables par lesquelles l'eau pourra s'écouler, il y aura une baignoire salée. Tout cela devrait être opérationnel au mois de mars, quand le bâtiment sera relié au réseau d'électricité.
Ces fromages, la jeune trentenaire les vend surtout à ses invités. Depuis 2016, Monika et son mari se sont lancés dans l'agritourisme, sous le nom de Siedlisko Leluja. Ils ont rénové une vieille cabane en bois, y ont aménagé une chambre, ont transformé une immense grange en lieu de réception. Monika nous emmène dans l'ancien poulailler devenu un petit nid douillet.
Les touristes viennent surtout l'été, entre mai et fin septembre. Cette année, c'était complet toutes les nuits. Mes deux activités, le tourisme et l'agriculture, sont complémentaires. La production de fromage commence en septembre et dure jusqu'en mars, car je n'ai pas le temps de le faire pendant la haute saison, quand il y a beaucoup de touristes. Si je faisais juste du fromage, ou juste l'accueil des touristes, je ne pourrais pas vivre, c'est sûr.
Changement total d'ambiance. Nous sommes au bord d'une rivière, au Dvorek nad Wkra, un petit manoir datant de 1914. Zofia Leszczynska, la propriétaire depuis 10 ans, l'a hérité de sa grand-mère qui accueillait de la famille ou des amis en parallèle de son activité de meunière.
Quand j'étais enfant, je venais ici pour les fêtes. C'était mon endroit préféré. Je voyais un peu comment ma grand-mère faisait, accueillait les personnes chez elle. Je l'aidais durant les vacances. Elle me donnait un peu d'argent de poche. C'était super. Il y avait beaucoup de monde, mais je voyais qu'il y avait quelque chose à modifier, des travaux à faire pour proposer un certain confort.
En reprenant le manoir, Zofia installe le chauffage central, refait les salles de bain, rénove les chambres pour les invités et propose des activités aux touristes. Cueillette de champignons, canoë sur la rivière, atelier pour les enfants. Pour un peu moins de 300 euros, repas compris, Agnieszka est venue passer le week-end avec son mari et ses 2 enfants.
On est venu ici avant tout pour que nos enfants soient dehors, près de la nature et des animaux. Dans le jardin, il y a quelques canards, des chèvres, des poules. On va aussi aller se promener, cueillir des champignons.
L'activité touristique rapporte aujourd'hui davantage d'argent à Zofia Leszczynska que l'agriculture. Dans le grand jardin derrière le manoir, la jeune femme cultive des arbres fruitiers.
Je suis d'abord une agricultrice. Je suis enregistrée comme telle au tribunal de commerce. C'est obligatoire pour proposer de l'agrotourisme. Ici, dans le jardin, j'ai des pommiers, des poiriers, des cerisiers, des pruniers, des noisetiers, des arbres à coins. On en fait des confitures. Mon activité agricole est forcément liée avec le tourisme. Je vends mes produits aux touristes qui viennent ici. Je ne pourrais pas les vendre aux personnes qui vivent aux alentours, à la campagne. Ce sont des produits biologiques, donc ce sont surtout des urbains qui ont envie de les acheter.
D'ici quelques mois, Zofia veut ouvrir une ferme pédagogique pour faire venir des classes.
L'objectif, c'est d'expliquer comment fonctionne l'élevage, comment on cultive les différentes plantes, ce qu'est le métier d'agriculteur, parler d'écologie. Il y aura des espaces fermés avec les animaux, des chèvres, des cochons, des oies, des poules. En automne, en hiver et au printemps, j'ai beaucoup moins de touristes en semaine. Ils sont surtout là le week-end. Alors j'aimerais créer une sorte de musée vivant. Comme ça, durant la semaine, les enfants de l'école primaire, de la maternelle pourraient venir ici, profiter du lieu, faire des activités éducatives.
Un moyen de diversifier encore ses activités et ses sources de revenus, la Pologne compte plus de 250 fermes pédagogiques.
Et si l'une des causes de ce malaise paysan est aussi cette nouvelle cohabitation entre agriculteurs de toujours et nouveaux néo-ruraux, la survie des villages est aussi en jeu. À l'intérieur du Portugal, la région de Trás-os-Montes est menacée de désertification, mais une famille du bourg de Podence, avec la nouvelle génération, relève le défi pour relancer l'activité économique. Un reportage signé Marilyn Darcy.
Les châtaignes s'accumulent dans les seaux. Le ramassage épuisant exige d'avancer courbé en deux.
Les châtaignes, c'est l'une des spécialités de la région de Trás-os-Montes avec les olives. Katharina est la benjamine de la famille Chavière. La jeune femme de 33 ans va bientôt planter de nouveaux châtaigniers, ainsi que des noyers, des amandiers et des oliviers. Laborantine de profession, l'agriculture, pour Katharina, c'est un nouveau départ.
On a des terres, alors c'était l'occasion. Le projet est à mon nom, je l'ai constitué avec l'aide de mon frère. C'est vraiment beaucoup de bureaucratie, beaucoup de documents. Il faut des autorisations, le recensement des terrains, si c'est proche du barrage, car c'est une zone protégée, il y a pas mal de restrictions pour planter. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Ça prend du temps, le projet est déposé depuis un an et demi et on vient juste d'avoir l'autorisation.
Dans la famille Chavière, on est agriculteur le week-end et pendant les vacances. Aux côtés de Katharina, il y a donc aussi ses deux frères, Rufino et Pedro, sa sœur Béatrice, et Juan, le mari de celle-ci. Katharina, qui vient d'avoir un bébé, a délégué les gros travaux à Rufino. Il a lui-même un projet d'agriculture qui lui a permis d'acheter un nouveau tracteur performant pour labourer des parcelles escarpées dans les serrages de Trás-os-Montes.
On a plusieurs projets en agriculture, mais les choses évoluent rapidement. Pour les projets plus anciens, il fallait suivre une formation. C'est ce que j'ai fait pendant 3 ans. Pour ma sœur, ce n'est plus obligatoire car elle est mon associée. Mais c'est bien car il y a un transfert de connaissances et d'échanges entre les générations.
Pedro, diplômé en infirmerie vétérinaire et travailleur social à la ville. Il y a 5 ans, à l'âge de 30 ans, il s'est lancé dans les plantations de myrtilles. Un projet important qu'il n'aurait pas pu faire sans les aides de l'Union européenne.
Financer nous-mêmes les projets, c'est impossible. Mon projet est important, c'est 120 000 euros auxquels on ajoute la prime de jeune agriculteur. Sans ça, ce serait impossible. Je gagne un salaire de 600 euros brut par mois, le salaire minimum. Moi, j'ai toujours voulu travailler dans l'agriculture. Mais autour de nous, c'est rare à cause des risques de chômage et de fluctuations de revenus. Les gens misent plutôt sur un emploi stable et non pas sur l'agriculture.
Et non pour l'agriculture.
Enfin, dans la famille Chavière, il faut aussi parler du beau-frère, Juan Torres, le mari de Béatrice, l'aîné de la famille. Lui s'est lancé dans la culture de champignons shiitake grâce à la prime jeune agriculteur de 30 000 euros qu'il a pu décrocher à temps. Indispensable pour faire face aux premières dépenses, car le métier est difficile et tous ne savent pas gérer l'argent à bon escient.
Souvent, la prime pour jeunes agriculteurs était utilisée pour des dépenses privées. Ensuite, quand arrivaient les dépenses de fonctionnement liées au projet et qu'il fallait faire les investissements, l'aide financière avait disparu. Les projets devenaient facilement insupportables et beaucoup ont dû mettre fin à la production. Il faut garantir notre revenu, avoir un salaire à la fin du mois. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de se lancer dans des projets qui demandent beaucoup de travail.
Juan tient la comptabilité de tous les projets agricoles de la famille et aide Béatrice, sa femme, qui gère des logements touristiques et un restaurant.
Nous avons des logements touristiques, c'était dans la famille. Ici, ce sont nos gens, notre culture, notre patrimoine et notre gastronomie. Je voulais rester liée au village. Et puis, c'était à nos parents et nos grands-parents. Ils ont tellement lutté pour nous transmettre tout cela. Alors, si on ne prend pas le relais, ça aura servi à quoi ? Qu'est-ce qui va rester ? Si on ne fait rien, tout va disparaître.
Pourtant, c'est très connu pour son carnaval pittoresque, mais comme tous les villages de l'intérieur, il meurt à petit feu. Avec presque 1 million d'euros d'investissement, la famille Chavière se bat pour empêcher le village de disparaître, même au prix d'un travail acharné, préoccupation et courbature en prime pour le bonheur de la vie à la campagne.
Oh, England, you're such a fool. Did they teach you nothing at school? With politics, you've been risqué. For Brexit is just an entree.
C'est ce jeudi que les Britanniques, les Écossais, les Irlandais du Nord se rendent aux urnes pour élire une nouvelle Chambre des communes et donc un Premier ministre, Boris Johnson. Ou pas Brexit, ou pas le double enjeu fait de ce scrutin une étape majeure. Mais en aura-t-on pour autant terminé avec la saga Brexit ? Pas du tout, nous dit Denis McCain, ancien député travailliste, ancien ministre chargé de l'Europe sous Tony Blair. Il vient de publier un livre intitulé Brexiternity. Bref, on va encore parler longtemps du Brexit, comme il l'a expliqué à Sylvie Noël, dans un français savoureux et enrhumé.
En effet, on a deux possibilités devant nous. Soit M. Boris Johnson gagne une large majorité le 12 décembre. Eh bien, en ce cas, on va sortir du traité de l'Union européenne. Ça, c'est une partie très facile. Après, on va commencer à négocier avec Michel Barnier à Bruxelles et son équipe. Et là, personne ne sait combien de temps ça va durer. L'alternative aussi, c'est que si les partis de l'opposition, les travaillistes, les libéraux-démocrates, les nationalistes écossais ont une majorité combinée, en ce cas, ils proposent un référendum aussi qui annonce très très délicat. Et c'est-à-dire que même si dans un référendum l'année prochaine, on accepte de rester dans l'Union européenne, ça va dominer notre politique et nos rapports avec l'Europe pendant quelques bonnes années à venir. Donc, la décision d'il y a 3 ans et demi de voter la sortie de l'Europe ouvre la boîte de Pandore et on va souffrir les conséquences pendant une longue période à venir. C'est ça la thèse principale de mon livre.
Si les députés venaient effectivement à voter en faveur du texte qui a été négocié entre Boris Johnson et l'Union européenne, s'engageraient alors des négociations pour déterminer quel sera le cadre des futures relations commerciales entre la Grande-Bretagne et les Européens. Et là, ça peut aussi s'annoncer très long.
Très long, Monsieur Barnier, bien sûr. Dit qu'il veut bien le terminer avant la fin de l'année prochaine, de 2020. Mais si vous regardez l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, les négociations et les ratifications ont duré 7 ans.
Alors justement, à la question « Comment en est-on arrivé là à 3 ans et demi de psychodrame ?», vous faites un constat très critique dans votre livre. On va dire que tout le monde en prend pour son grade dans Brexiternity. Les habituels, c'est-à-dire David Cameron qui a déclenché ce référendum, ou Theresa May. Mais vous pointez aussi les milieux d'affaires, certains médias et les think tanks. Pourquoi ?
Simplement, les patrons chez nous, ils ont resté sur la couette dans le lit depuis juillet 2016. Ils ont refusé d'expliquer à la population les effets néfastes d'un Brexit, refusé de mettre pression sur les députés. Bien sûr, ils dénoncent l'idée d'un no deal, un crash total, mais ça c'est très facile.
Vous avez été député travailliste, ministre de l'Europe de Tony Blair. Depuis plus de 3 ans, on ne peut s'empêcher non plus de se demander quelle aurait été la donne si le parti travailliste avait été dirigé par un leader pro-européen et charismatique, non ?
Oui, bien sûr. Mais aussi, j'ai un reproche que Tony Blair et son successeur Gordon Brown, ils étaient tous pro-européens, mais ils n'ont jamais plaidé la cause de l'Europe devant leurs citoyens.
Et justement, si la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne, on sait que les pro-Brexit veulent absolument que votre pays se tourne vers la sphère anglo-saxonne. Qu'en pensez-vous ?
La grande orientation, surtout chez M. Boris Johnson, qui est né aux États-Unis, et la droite régnante actuellement, est d'orienter l'Angleterre beaucoup plus près des États-Unis de Donald Trump. On vient de révéler des discussions secrètes entre les représentants du gouvernement et les grandes boîtes médicales américaines pour qu'ils entrent dans le marché de la santé qui, chez nous, est très contrôlé par l'État. Et on commence une longue privatisation de notre système de santé. Et donc, c'est plutôt de faire l'Angleterre une partie de le monde anglo-saxon dominé par les États-Unis qui est la menace à l'avenir.
Brexiternity de Denis McShane est publié en anglais aux éditions IB Tories, mais il n'est pas encore traduit en français. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot, une émission réalisée grâce à un cofinancement de l'Union européenne. On se retrouve dès demain.